Bonsoir, bienvenue dans Dégenré.
Alors, vous écoutez bien l'émission féministe pour déranger
sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Et ce soir, on va vous parler de littérature.
Alors, c'est vrai qu'on a eu cette idée, bon, c'est pas la première fois qu'à Dégenré, on fait une émission qui parle un peu d'écriture, de littérature. Mais c'est pas tout à fait une émission littéraire où on va juste présenter des livres. On avait un peu envie de se poser quelques questions sur justement cette notion d'écriture féminine, de littérature féminine. Est-ce que vraiment il y a des écrivaines voilà, on va un peu se questionner autour de ça. Et puis on avait aussi envie de demander un peu dans notre entourage ou dans les bibliothèques, d'aller voir les femmes et de leur demander quels étaient les livres qui avaient marqué un peu... on est allé voir des féministes pour leur demander quel était le livre qui les avait marqués en tant que féministes. Donc un peu l'auteur féministe ou meuf qui les avait marqués. Donc on va écouter un petit peu ces extraits d'interview tout à l'heure. Et puis on va aussi un peu se questionner et puis... Pour ces questionnements, on est un peu allé rechercher chez ces grandes auteurs qui ont beaucoup réfléchi, comme Beauvoir, qui, on verra, dit pas que des trucs sympas d'ailleurs. Et puis Sixous, Hélène Sixous.
Oui, bah, y a pas mal d'écrivaines en fait qui ont parlé aussi de l'écriture, des femmes et des femmes dans l'écriture.
Voilà. Et puis quand même, bien sûr, on ne résiste pas à l'envie de vous présenter à la fin de l'émission quelques bouquins. Qui nous ont plu à nous et qui nous ont marqués et qu'on a envie de vous conseiller.
En tout cas, au début, on voulait commencer par dire deux mots sur la place, historiquement un peu, la place qu'ont eu les femmes dans l'écriture, en fait, et dans la littérature, qui n'a pas été une place évidente.
Bon, bah, c'est vrai que si on regarde un peu dans l'histoire, on le sait, pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu accès à l'instruction, n'ont pas eu accès à l'école, ou alors que certaines rares femmes issues des classes bourgeoises, enfin nobles, je pense, avant les bourgeoises, elles n'avaient pas accès à l'instruction. Bon, je suis pas hyper calée en histoire, mais...
En tout cas, des riches, quoi, qui avaient des instructeurs privés, tout ça.
Voilà, voilà. Et encore qu'elles étaient probablement cantonnées à certains domaines. J'imagine qu'elles étudiaient moins les mathématiques et la physique que, justement, peut-être...
La littérature.
La littérature.
Mais souvent, du coup, majoritairement, la littérature des hommes, puisque c'était un peu... l'unique littérature... Enfin, il y avait vraiment très peu de femmes auteurs à cette époque-là.
Et même celles qui connaissaient l'écriture, qui savaient lire et écrire, pratiquaient l'écriture plutôt dans des domaines dits féminins, d'ailleurs. Le journal intime, les correspondances...
Mais en tout cas, c'était rarement, très rarement publié et puis très rarement reconnu, quoi. Du coup, il y avait peu d'éditions d'écrivaines.
Des éditions, oui, de
livres édités, ouais. Mais il y en avait un petit peu quand même, mais voilà, souvent c'était des très intimistes, tout ça. Et puis bon, il faut voir aussi toute la notion du rôle social de la femme, là, qui était et est encore vachement autour de la maternité, de s'occuper des enfants, etc. Ce qui laisse aussi peu de temps à une charge sérieuse comme l'écriture. Alors du coup, si elles écrivaient, c'était... voilà, c'était pour s'amuser ou pour... Mais c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux, quoi.
Mais alors, aujourd'hui, ça a un peu changé, tout ça, quand même. Il y en a plein, maintenant, des écrivaines.
Alors, aujourd'hui, c'est plus compliqué à voir et c'est sûrement moins évident de se dire « Ah, les femmes sont peu reconnues dans l'écriture, il y a peu de reconnaissance des femmes écrivaines, comme c'était le cas avant. » Et après, malgré tout... Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est que les femmes sont cantonnées quand même à certaines littératures et on les retrouve peu, par exemple, dans l'écriture du théâtre ou dans le polar ou dans la science-fiction ou dans certaines branches théoriques, certains essais. Bah, on les retrouve beaucoup en psychologie, mais peu en histoire ou moins en sociologie, par exemple. Ou alors, si elles existent, elles sont moins reconnues.
D'accord. Ça, c'est prouvé.
Ben, moi, j'ai pas trouvé de texte vraiment très clair là-dessus, mais c'est quand même un truc assez, en tout cas, dans la manière, par exemple, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans ce qu'on considère des auteurs reconnus, et par exemple, on pourrait considérer que les auteurs reconnus, c'est par exemple les auteurs qu'on va étudier à l'école, il y a très peu de femmes.
Mais à l'école, on étudie les classiques, on n'étudie pas tellement les contemporains.
Ben, maintenant, un petit peu quand même contemporains, ouais. Ah bon. Et du coup, mais malgré tout, en fait, les images qu'on a et l'imaginaire qu'on a autour de l'écriture, c'est souvent des grands écrivains, beaucoup plus que des grandes écrivaines, quoi.
C'est vrai. Mais bon, je joue un peu l'avocat du diable quand même. Alors, comment ça se fait que moi, déjà, je voulais demander peut-être plus de précisions sur quels sont les genres dans lesquels tu dis que les femmes sont cantonnées à un certain genre de littérature. Alors, on exclut déjà la littérature scientifique, les essais, les machins théoriques. Donc, dans la littérature, dans les romans, tu dis qu'il y a un certain type de roman. Quel est le type de roman, d'après toi ?
En tout cas, j'ai eu l'impression, et aussi en lisant pas mal de romans, et aussi en écoutant des fois les critiques littéraires à la radio, tout ça, que souvent, les femmes qu'on reconnaît dans l'écriture du roman, elles ont une écriture qu'on appelle intimiste, souvent un peu autobiographique, un peu dans... qui parle de l'intime en fait et de un peu du dialogue intérieur, des choses comme ça.
Je reconnais, c'est pas faux, mais j'ai quand même envie de dire mais c'est pas vrai, il y en a plein des écrivaines qui transgressent un peu ces normes, on les connaît justement et justement elles sont médiatisées, celles qui transgressent ça
comme des pentes.
Mais ouais, et puis tu parlais de polar, il y a Fred Vargas.
Et oui, mais l'exception ne fait pas la norme.
Oui, oui. C'est... Non, mais c'est intéressant justement de se poser la question. Ok, quand on me dit ça, je peux avoir envie de. J'ai pas envie d'y croire en fait. J'ai pas envie qu'il y ait. Je pense à toutes nos auditrices et nos auditeurs qui se disent mais c'est pas vrai. Moi, j'en connais des écrivaines et tout. Bah, essayez de compter et peut-être essayez de faire vos propres statistiques personnelles dans votre bibliothèque. Dans le nombre, dans effectivement, quels auteurs vous avez étudié à l'école.
Et ne venez pas voir à la bibliothèque féministe, ça marchera pas.
Mais c'est pour ça, c'est aussi qu'en préparant l'émission, moi j'étais, mais moi je connais pas d'auteur de polar, mec. Mais je suis peut-être pas un bon exemple.
Mais oui, en fait, c'est aussi, voilà, c'est que, en fonction de ce qu'on lit aussi, c'est plus ou moins évident. Et puis, c'est comme souvent quand on parle des. Du passé ou de voilà dans les années 70 ou avant les années 70, c'est toujours très évident. Et maintenant, quand on regarde, et ben effectivement, il y a moins d'évidence parce qu'il y a plus de femmes publiées, mais on peut
ce
pas
ce qui est une bonne nouvelle,
ce qui
donc
est bien,
et ils vont dire qu'il y a eu une vraie évolution.
Mais pour autant, on peut pas par cet exemple là imaginer que c'est fini en fait, et
qu'il y a plus de discrimination, qu'il y a en fait, il y en a encore.
Voilà,
pour être publiée en tant que femme, c'est plus dur qu'en tant qu'homme. Encore aujourd'hui.
Voilà. Et c'est pour ça que dans les années 70, par exemple, des féministes ont créé des éditions purement féministes, comme l'édition Des Femmes, qui était une maison d'édition pour les femmes et une maison d'édition féministe. Et aussi un peu dans ce truc où, en plus de la misogynie et des discriminations des femmes, et ben, il y a aussi un antiféminisme assez fort qui faisait que pour publier des textes féministes, c'était vraiment hyper dur, quoi.
Ah ben, je pense encore aujourd'hui... Mais je pensais à un autre truc, c'est que quand on parle du coup de littérature spécifiquement féminine, là, un peu de ces champs de littérature plus dédiés aux femmes aussi, est-ce qu'il n'y a pas un certain mépris pour justement ces champs-là qui vont être moins nobles que par exemple l'écriture de la poésie ou l'écriture, le roman historique ou je ne sais pas est-ce qu'il y a ça ? Parce que c'est non seulement alors elles vont être cantonnées dans un domaine, mais en plus de ça, leur domaine va être un peu méprisé, moins valorisé, quoi.
Ben là, j'ai fait un espèce de résumé d'un article que je lirai tout à l'heure, qui parle de ça, effectivement, de la misogynie de la critique littéraire, en fait.
D'accord. Bon, alors donc une émission un peu sur la misogynie du monde littéraire, et puis on va essayer un peu de déconstruire tout ça en faisant la pub, enfin en tout cas en disant en valorisant les écrivaines que nous on aime bien et qu'on trouve qu'elles ont fait un super boulot d'écriture, donc on parlera un peu de tout ça ce soir.
Et on va commencer par un morceau de musique qui s'appelle...
Qui n'est pas n'importe lequel et c'est pas pour rien d'ailleurs.
Voilà, qui est un morceau de Kazay qui s'appelle « Suis ma plume ». Alors on peut l'écouter.
Oh les mecs, va falloir suivre ma plume attentivement. Capter la compétence de la rime. Regardez le style de la banlieue nord, s'exprimer encore, hein? Écoute ça, suis ma plume. S'il te plaît, suis ma plume. Ma plume, mon diplôme, un blâme, un problème. Un suprême programme haut de gamme qui engraine, qui entraîne des bris de crâne, de vitrine, crime qui se trame, nitroglycérine. Premier album, je dégomme, sors des abîmes. J'amène œdème et rétame des ridimes. J'étonne, on m'acclame, je donne mon mot d'ordre et mon modem. Qui dame des dômes sur le macadam. Des tonnes d'ultimatum dans mes thèmes. Hématome dans mes tomes à l'antenne et cartonne le système. Fais grand chelem pour victime des HLM. Vu que Paname est tel Gotham. Tam-tam et cocktail. Ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et l'acclame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Emblème et on l'aime et l'acclame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, j'en ai partout, t'es averti. Vas-y, barre-toi, je vire tout et suis en liberté. Allez, tire-toi. C'est mon carton, mon cartel est partant. Deux sorties pour apporter un bordel important. Il est temps de jarter, on va tarter. Sans vertu ni mot courtois, on va t'écarter. Fais-le pour toi, en retard tu iras par terre en martyr. Et verras les cratères de tes artères ressortir. Car on torture dans nos dortoirs. Et puis t'attire sans critère dans nos vestiaires pour se divertir. Inspecteur, reporter, auteur sectaire. Il est trop tard dans le secteur pour vos projecteurs. Routard, scooter, motard, conducteur. Compte bien dicter leurs lois sur le terre-plein. Vous faire taire, humanitaire, manquant d'humanité, on va les dynamiter, les matons, les menottés, nantis à édenter, dans des salons de thé, anéantis. ici au pays d'Anton. Moi je viens pour les dompter. On va monter les scies à mettons. Nous les bantous, carmater les moutons. À ne battre, c'est un métier. Et ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, attaquer les verts kakis, saquer leurs locaux. Maquer les dents de maquis sans tricot illico. Braquer les marquis, friquer leurs acquis et cul. Ils ont croqué, conquis leurs 40, raquant nos vécus. Nous, délinquants indiqués, au sol plaqué. Flanquant du boucan et des raclés à qui s'est moqué. Pas ex aequo, juste parqué dans ce fiasco. Confisquons whisky et pisson sur le cocorico. Ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remblème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, alors t'as suivi? Ça t'a plu? Hein? T'as vu ce style? T'as vu cette dextérité? T'as vu cette compétence? Ça, ça existe uniquement chez En Falche.
Merci Kazet pour cette petite démonstration d'écriture, parce que pour le coup, c'en est aussi. On va écouter maintenant dans cette émission de Dégenrer spéciale littérature des interviews qu'on a faites autour de nous, hein, dans notre entourage, donc de sept copines, qu'elle assumait, c'est le cas, à qui on a demandé...
Est-ce que tu peux me parler d'un livre qui t'a marqué, qui a été écrit par une meuf ou une gouine ou un ou une trans?
Voilà, dans l'idée de faire comme un petit sondage qui évidemment n'a pas une grande, enfin, qui a une grande valeur, mais en tout cas pas une valeur. C'est cette personne, quoi. Voilà, c'est pas représentatif. Mais malgré tout, malgré que ce soit pas représentatif, moi ça me soulève quand même quelques petites observations, comme le fait qu'il y avait très peu de livres théoriques.
Et que les copines qui aimaient bien les livres théoriques, elles ne voulaient pas en parler dans le micro.
C'est vrai ça. On pourra dire après aussi quels sont les auteurs qui n'ont pas été, qui ont été cités hors micro. Mais peu de théorie, alors que bon voilà, donc des copines engagées dans les luttes féministes et qui par ailleurs à qui on demandait quels sont les livres qui ont été importants aussi en tant que féministes, quoi. Donc c'est intéressant de voir que c'est souvent des romans qui sont sortis. Pour ma part, ça aurait été la même chose. Alors, n'y voyez aucune critique. Hein, je ne lis pas de théorie, j'aime pas ça. Mais bon, je trouve ça intéressant de le soulever quand même. Et qu'est-ce que je pensais d'autre?
En tout cas, souvent, c'était des romans aussi écrits ces dernières. Enfin, c'est.
Contemporains.
Contemporains, voilà.
Ouais, c'est vrai, des romans contemporains. Donc voilà, on vous propose d'écouter ce petit montage d'interview et puis on se retrouve après pour continuer à discuter sur Dégenré.
Alors avec cette question, ce qui me vient en premier, c'est un livre de Isabelle Allende qui s'appelle Eva Luna. Je pense que c'est un des premiers livres que j'ai lus et qui m'a marqué quand même. C'est l'histoire d'une nana. Enfin, sa vie, elle est assez extraordinaire. Tous les gens qu'elle rencontre au fur et à mesure de son histoire, en fait, sont assez exceptionnels, étonnants, différents. Et ça lui donne une richesse et un rythme de vie et une façon de voir la vie qui est assez épatant, quoi. J'ai pas une analyse de l'écriture qui est très très fine ou très critique. C'est quelque chose qui m'emporte parce que c'est vraiment raconté. C'est romanesque, romanté. C'est un peu quelque chose comme ça, ouais.
Je peux te parler de Zoé Valdés, qui est une auteure cubaine, qui a écrit un super bouquin qui s'appelle Louve de mer et qui raconte l'aventure de deux femmes pirates qui connaissent des histoires incroyables et qui tombent amoureuses et qui se travestissent pour pouvoir embarquer. Et je conseille vraiment la lecture de ce livre. Et je voulais en lire un extrait, mais il a été emprunté à la bibliothèque. Alors j'ai trouvé « Danse avec la vie » de Zoé Valdès. J'ouvre une page au hasard. Lue, le roman érotique dont je t'ai parlé, eh ben je le transforme en polar. Elle se tapota le menton en signe de blabla. Tu me l'as déjà dit, ce que tu fais de mieux ou de pire, et moi je n'ai cessé de te répéter qu'en littérature, c'est l'ésotérisme qui tient le haut du pavé. Avec un peu d'application, tu gagneras des mille et des cents. Comme Marie Gins Clark, tu vois. Tu devras changer de nom, de piole, et choisir un bon décorateur. Ce dialogue, je l'introduirai dans le roman. Liu haussa les épaules. Le reste, je l'inventerai.
Ce serait Dirty Weekend, d'une écrivain qui s'appelle Hélène Zahawi, que j'ai bien aimée. C'est l'histoire d'une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, au début, et du coup le début du bouquin, ça commence avec un peu une description de sa vie, qui a l'air d'être une vie assez grise, un peu pourrie, où elle habite dans un petit appart en rez-de-chaussée, où elle n'a déjà pas beaucoup de lumière, où elle n'a pas l'air de faire grand-chose de sa vie et tout, c'est un peu une loseuse. Et puis à un moment donné dans cette vie-là, il y a un gars qui débarque, qui est son voisin. Et en fait, il commence à l'oppresser. D'abord, il commence par la mater par sa fenêtre. Du coup, elle renonce au peu de lumière qu'elle a dans sa maison. Elle est obligée de mettre les rideaux pour pas se faire mater chez elle. Donc, ça commence comme ça. Et puis après un moment, elle va au parc, qui est une de ses rares balades. Voilà, il y a un petit parc à côté de chez elle et elle va se poser sur un banc. Et là, le gars, il débarque et puis il lui fait sentir qu'en fait, elle est plus tranquille là non plus, puisqu'il s'assoit à côté d'elle sur le banc. Et puis, par des trucs assez subtils, je crois qu'à un moment donné, il lui serre la main, en fait, il lui prend la main et puis il serre un peu fort, histoire juste de lui faire comprendre qu'en fait, il peut lui faire ce qu'il veut et voilà, qu'elle est plus tranquille. Du coup, le bouquin, il commence comme ça, sur ce truc un peu glauque. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à un moment donné, je sais plus si elle achète d'abord un couteau ou un flingue, mais en tout cas elle achète un truc comme ça. Et puis là il y a un gros retournement de situation où en fait qui est assez chouette quand on le lit, parce que ça démarre vraiment sur cette histoire toute pourrave, et puis à partir du moment où elle décide tout tranquillement de pas se laisser faire, il y a un gros retournement, et après c'est l'histoire d'un week-end qu'elle passe comme ça avec cette transformation. Et voilà, j'ai pas trop envie de raconter la suite, mais après elle va se servir de son arme plusieurs fois et puis ça part un peu. En tout cas, moi c'est un bouquin que j'ai lu, que j'ai vraiment vachement aimé, qui m'a donné de la force quand je l'ai lu, et du coup ça m'a donné envie, je l'ai offert à pas mal de copines et j'ai eu des bons retours de toutes les copines qui l'ont écrit. Il y avait une copine qui était partie avec en stop par exemple et qui l'a lu dans un trajet en stop et qui était super powerful de lire ça.
Très récemment, un livre écrit par, alors je sais pas comment elle se définit, hein, je dirais une meuf, hein, du coup, qui s'appelle Claire Marin. C'est un bouquin qui s'appelle Hors de moi. Et en fait, ça raconte son expérience de la maladie, en fait. Alors elle nous dit pas vraiment quelle maladie elle a, mais finalement, c'est pas ce qui est important. Et j'ai trouvé que ce bouquin, il était vraiment, je recommande sa lecture parce que déjà, elle écrit super bien. Parce que c'est hyper rare les livres qui parlent de c'est quoi être malade en fait dans une société super validiste et tout ça, et qu'en plus elle l'aborde vraiment avec un point de vue de femme en fait, et du coup le rapport à son corps qui change avec sa construction de femme, etc. Et j'ai trouvé ça super en fait que ce genre de livre il existe, ça m'a fait vraiment du bien. C'est hyper simple, c'est des phrases assez courtes. Très simple, mais chaque mot, on a l'impression que chaque mot décrit parfaitement les choses, en fait. C'est vraiment le genre de style que j'aime, en fait, parce que je trouve que c'est efficace, c'est pas pompeux, et en même temps, c'est plein de poésie. Ça décrit des choses, en fait, super, de manière très, abrupte, en fait. Ça dit les choses, clairement. Et en même temps, elle arrive à mettre là-dedans... de la poésie, de l'humour, du recul et tout ça. je trouve ça vraiment chouette. Et puis plus généralement sur le ton en fait de du livre et le ton de l'écriture du coup, et ben elle parle d'un sujet super grave en fait qui l'affecte personnellement et beaucoup, mais c'est jamais dans la complainte et surtout, enfin il y a vraiment cette idée qu'elle politise en fait ce qu'elle vit, qu'elle le raccroche à une société, à un fonctionnement social. Et ça moi ça m'a vraiment paru hyper pertinent.
Alors, en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas trop à choisir entre deux livres qui m'ont vachement marqué, parmi tant d'autres d'ailleurs. Du coup, il y en a un, c'est un roman, et ça s'appelle Bye Bye Blondie de Virginie Despentes. J'étais hyper jeune, en fait, quand je l'ai lu, j'avais 18 ans. Et je venais juste de découvrir que j'étais lesbienne. Et du coup, j'étais un peu prise dans ces réflexions-là, plus dans des réflexions Ok, j'ai 18 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai pas tellement envie de m'intégrer, d'être adulte, comme on me dit de le faire. Et aussi dans des réflexions un peu féministes dues à mon coming out. Et en fait, ce bouquin, il m'a vraiment inspiré une rage féministe hyper forte que j'avais jamais ressentie avant. Et je crois que c'est un bouquin qui m'a donné vachement de force là-dedans. Et qui m'a aussi un peu donné, envie, une grande attirance pour la culture punk et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement important dans ma vie que bah ouais, du coup, ce livre, il a vachement marqué ma vie. Et voilà. Et sinon, le deuxième livre qui a marqué ma vie... Ouais, vas-y, dis-moi.
Tu veux nous parler de l'auteur aussi ?
Virginie Despentes ?
Ouais.
Ouais, bah alors du coup, après, j'ai enchaîné tous ces livres. Et c'était avec ma copine, ma première copine, là, on se faisait des lectures au lit, l'une à l'autre, de Virginie Despentes. J'avais pas encore lu Baise-moi, ni vu Baise-moi. Du coup, j'ai lu genre tout le reste. Et en fait, nous, avec ma copine, on trouvait ça trop cool, quoi. On était trop contentes. C'était un de nos rares divertissements parce que, voilà, c'était une meuf qui parlait, comment elle écrit, c'est vraiment avec ses tripes. Et qu'elle parle du fait d'être une meuf et d'être punk. Et donc, du coup, voilà, nous toutes les deux, on était punk et on était des meufs et on était des gouines. Et alors, du coup, ça nous parlait vachement, ces histoires-là, en fait. On avait l'impression d'avoir jamais lu des bouquins qui correspondaient autant à nos réalités avant, en fait. Parce que tous les bouquins qu'on nous fait lire à l'école, ils parlaient pas tant de ça, en fait. Ils parlaient pas d'être féministe, ils parlaient pas d'être une meuf, ils parlaient pas d'être queen, ils parlaient pas d'être punk. Donc, c'est sûr que ça nous a fait un truc de fou, quoi, de lire un truc qui colle un peu plus à nos réalités.
Et l'autre ?
Alors, l'autre bouquin, c'est un bouquin théorique. Ça s'appelle Weeping Girl de Julia Serrano. Et en fait, il a jamais été traduit en anglais, en français, je veux dire. Du coup, il se trouve qu'en anglais. Et du coup, moi, je l'ai lu en anglais il y a 2 ans bientôt. Et en fait, c'est une femme trans féministe américaine qui écrit sur le mouvement de libération transgenre, mais aussi le mouvement queer et qu'est-ce qu'elle en pense et les distances qu'elle prend avec ça, son parcours de transition et qu'est-ce que son expérience en fait de femme trans. Et aussi, surtout et beaucoup, ce bouquin, il parle de féminisme, en fait. Et il parle de féminisme d'un point de vue d'une femme trans. Et il parle beaucoup de sexisme, mais aussi de ce que c'est que la misogynie, en fait. C'est-à-dire l'espèce de pensée dominante, là, veut que la féminité, ce soit un truc superficiel, artificiel, futile, qu'on prend pas au sérieux, quoi, en fait, dans cette société. Et du coup, tous ces thèmes réunis, là, ça m'a vraiment parlé, en fait. Et notamment parce qu'il y a aussi tout un passage sur pourquoi et comment les femmes trans ont été exclues du mouvement féministe ces 20 dernières années. Et comment elles se sentent légitimes en tant que féministes et en tant que femmes dans un mouvement féministe. Et à quel point le mouvement féministe, ça fait partie des mouvements qui la libèrent en tant que personne trans aussi. Alors du coup, moi ça m'a fait un truc, une espèce de claque de « Ah mais en fait, le féminisme c'est pas quelque chose qui est éloigné de la lutte transgenre. C'est pas quelque chose qui est transphobe en soi, en fait, comme lutte. Et je pense, vu qu'à l'époque, tout mon réseau social était trans, et que il y avait beaucoup de gens qui me disaient que le féminisme, c'était transphobe, et notamment la non-mixité, c'était transphobe, tout ça, ben, je pense que ça m'a vraiment fait un truc hyper important de pouvoir me dire féministe, de lire ce bouquin. C'est-à-dire de, en fait, ben, s'il y a des féministes transphobes, j'en fais pas partie. Et j'ai le droit quand même de me dire féministe, parce que je veux réclamer ce mot, en fait. Elle, c'est beaucoup ce qu'elle développe. Elle, voilà, elle dit, oui, il y a des féministes transphobes, mais je réclame ce mot pour moi-même. Parce que j'ai envie, voilà, que le féminisme, ce soit autre chose. Et c'est vrai qu'il y a plein de féminismes différents, du coup. Voilà, ça m'avait mis un peu une grosse claque et ça m'a un peu précipité dans le fait d'assumer d'être féministe, et c'est quand même super important dans la vie. Enfin, dans la mienne, ça l'était en tout cas.
Servante écarlate de Margaret Atwood, et je l'ai vraiment trouvé super bien parce que j'avais vu le film et le livre est très bien écrit et assez bien traduit, je pense. Et vraiment, il tient en haleine et la narration est super parce que c'est une sorte de journal qu'elle tient dans cette espèce de société un peu futuriste, complètement bouffée par la religion, où les femmes fertiles qui restent sur Terre sont juste de la chair à reproduire, là. Et du coup, elle raconte assez bien cette histoire, et c'est plutôt bien foutu. Il y a vraiment un super suspense, et je sais pas, c'est vraiment intéressant. Ça pose plein de questions sur le rôle des femmes dans la société, les rapports de classe, aussi sur ce truc de science-fiction, là, de savoir ce que pourrait devenir notre société si elle continuait dans telle ou telle voie, ce qu'on peut assez vite imaginer. Enfin, on peut assez vite imaginer que ce serait notre société qui termine dans un truc dans ce genre, quoi.
Et tu peux me dire deux mots sur l'auteur ? Tu la connais ?
Margaret Atwood, donc elle est... apparemment, elle est présentée direct dans la préface du livre comme une auteure féministe de référence qui lutte pour la cause de la femme, enfin tout ça, là.
Et tu veux me parler d'un texte théorique dont tu me parlais tout à l'heure ?
Eh bien, il y a le dernier livre théorique que j'ai lu et qui était assez intéressant, c'était « Sexe, genre et sexualité » d'Elsa Dorlin, qui parle des croisements et des imbrications entre sexe et genre. Et jusque-là, mon livre de référence, c'était... mon auteur de référence sur la question, c'était Christine Delphi. Elsa Dorlin a changé ma vie, c'est merveilleux, elle a une théorie... pas forcément contradictoire, mais qui va un peu plus loin, qui dit que c'est pas seulement que l'imbrication des oppressions se fait pas seulement dans une addition d'oppression qui fait qu'on est plus oppressé ou moins oppressé, mais dans un rapport plus d'intersectionnalité entre les différents facteurs d'oppression, la race, la classe, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Donc voilà, il y a aussi des passages sur le racisme qui sont hyper intéressants. Après, c'est assez ardu à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé la première lecture, et puis quand j'ai essayé de faire lire des passages ou de relire des passages après, je me suis dit, ah oui, mais comment j'ai fait pour y comprendre quelque chose ? Et du coup, je suis jamais vraiment sûre de ce que j'ai compris de ce livre, mais en tout cas, il m'a beaucoup plu.
à l'écoute de Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Dégenré ce soir nous parle de littérature et on vient d'écouter un morceau de Sleater-Kinney qui s'appelle Get Up. Et alors Ernest, tu voulais nous parler d'une histoire d'écriture féminine, d'un article.
Avant ça, je voulais revenir sur les interviews.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que vous avez entendu un extrait de lecture d'un livre de Zoé Valdez, ouais, Danse avec la vie. Et ben vous voyez ce bouquin, comme la personne que j'ai interviewée, elle en a lu un extrait, je me suis dit « Ouais, c'est trop intéressant, j'ai trop envie de lire ce livre ». Et ben en fait, il est vraiment pourri. Et j'étais très déçue.
Bah, vas-y, développe un peu, tu peux pas juste dire « Il est pourri, ne lisez pas ce livre, ça pue, quoi ».
Oui, bah, sauf que je le dis.
Ouais, je vois ça, mais développe un peu quand même.
Non, en fait, j'ai pris ce livre parce que ça parlait d'écriture, et puis que voilà, Zoé Valdez, c'est une auteure que j'aime bien parce que j'ai lu Louvre des mers de elle, et puis j'ai trouvé ça vraiment bien. Sauf
la douleur
que...
du dollar, c'est bien aussi.
Eh bah, ben oui, mais celui-là, il est vraiment hyper lesbophobe. Et un peu folophobe aussi, enfin complètement folophobe aussi, et complètement, c'est une auteure là qui écrit des romans, et puis en fait c'est intéressant sur comment son éditeur lui dit bon t'auras qu'à écrire ça et ça parce qu'en ce moment c'est ce qui se vend. Du coup c'est intéressant aussi de voir les travers de l'édition, en fait comment les choses qui sont écrites c'est les choses qui se vendent et tout. Mais alors c'est une personne qui se dit bi mais qui couche jamais avec une meuf. Sauf quand elle couche avec une meuf et un gars en même temps. Et puis juste une fois, elle s'allonge à côté de son amie. Elles sont toutes les deux très excitées, mais finalement, elles ne couchent pas ensemble parce que quand même, elles sont amies, quoi. Alors du coup, voilà, c'est ça. Il y a plein... Bah, parce que oui, c'est ça, son éditeur lui demande d'écrire un roman érotique. Alors il y a plein d'histoires de cul, mais tout très hétérosexuel. Et puis elle finit par parler des gougnasses. Des gouines, quoi.
Parce que jusque-là, je me disais, bon, c'est pas forcément lesbophobe de...
Bah, c'est un peu glauque, quand même.
Ouais, d'accord.
Et puis là, du coup, elle finit par... Enfin, en milieu du roman, quoi, elle parle des gougnasses, et elle dit... elle parle de ces femmes... en gros, elle parle des butch, quoi, des femmes fortes de tête et masculines et tout ça, et que si elle-même était un homme, et qu'elle voyait ce genre de femme, eh ben, elle se transformait directement en tapette, et elle irait tortiller du cul sur le bord des rues.
D'où le côté folophobe que tu disais. Alors peut-être je me disais qu'on pouvait définir folophobe, c'était oui, pas moi. Compréhensible à toutes les oreilles. Donc c'est bien la discrimination des PD qui sont efféminés.
Voilà, mais c'est vraiment
un truc...
On
appelle les folles, donc folophobie.
C'est assez... mais du coup, il est assez horrible, quoi. Très normatif, en fait, de... On peut être gouine, mais à condition d'être féminine. Enfin, du coup, à la fois qu'il se veut à moitié ouvert, là, de... On peut avoir n'importe quelle sexualité. En réalité, dans les mises en pratique et dans les imaginaires que ça développe, rien du tout, quoi. C'est que hétéro. Et puis, au final... c'est horrible, quoi. Enfin, ça dit des choses vraiment affreuses.
C'était la chronique littéraire de Dégenré d'Ernest. Le livre est cassé, là.
Ben, le livre, il est dans la bibliothèque féministe, là, rue des Alpins.
Ouais,
et ben, j'ai mis un petit mot dans la couverture. Ernest vous déconseille complètement ce bouquin. Il est vraiment... Enfin, j'ai fait un petit...
Ouais,
j'ai mis une étiquette parce que c'est quand même la mauvaise surprise quand on aime bien cet auteur de se retrouver avec ce bouquin. C'est vraiment déplaisant, quoi.
Et ça se trouve, il y a quelqu'un qui aimerait bien et qui aurait d'autres arguments.
Oui, ben, je les attends.
Ouais, ben, bon courage pour discuter avec Ernest de ça, alors.
Mais bon, venons-en avec notre
écriture féminine.
Voilà.
Mais
alors,
qu'est-ce que c'est que ça?
Ben oui, j'ai trouvé un article là-dessus, ça me faisait un peu bizarre tout ça. Alors je l'ai lu, il est assez intéressant, j'en ai fait un résumé pour vous le lire. Ben, c'est un résumé d'un texte qui est déjà un résumé et qui est un texte... très théorique, universitaire. Alors j'espère que ça sera compréhensible, j'ai essayé que ça le soit. Et ça a été écrit par Merete Tristrup Jensen. Alors j'espère que j'ai pas trop écorché le nom. Ça a été, du coup c'est sur la notion d'écriture féminine et ça a été publié en novembre 2000 dans la revue Clio et c'est en ligne sur internet. Alors je commence la lecture. Il y a un certain nombre d'analyses de ce qui est appelé l'écriture féminine. Alors que certaines personnes en font la promotion et veulent qu'elle se développe, d'autres en font une critique acerbe et relativement misogyne. Cependant, utiliser le terme « écriture féminine » reste assez essentialiste, comme s'il existait une forme d'écriture appartenant spécifiquement aux femmes et de manière innée liée à la femme, qui serait une écriture appartenant à la femme. Simone de Beauvoir critique grandement le mythe de l'existence d'une nature féminine dans le deuxième sexe, Paradoxalement, elle critique la littérature des femmes comme si celle-ci n'avait pas dépassé le stade d'une écriture opprimée. Elle a même écrit « Il est connu que la femme est bavarde et écrivassière. Elle s'épanche en conversation, en lettres, en journaux intimes. Il suffit qu'elle ait un peu d'ambition, la voilà rédigeant ses mémoires, transposant sa biographie en roman, exhalant ses sentiments dans des poèmes. »
Mais attends, on croyait que Simone de Beauvoir, c'était notre alliée féministe.
Eh ben, c'est aussi une grande critique de certaines formes d'écriture, notamment l'écriture des femmes. Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment misogyne, j'ai été choquée. Et puis en fait, j'ai regardé les sources et elle a vraiment écrit ça. Alors voilà, Simone de Beauvoir, on lui a finalement reproché d'avoir une approche normative de l'écriture, coincée dans une culture universelle et masculine, et qu'elle ne voit que le stéréotype de l'écriture des femmes. De son côté, Hélène Cixous valorise les spécificités de l'écriture féminine, son naturel, son rapport à l'oralité et sa capacité de s'extraire de sa propre réalité. On peut voir aussi ses propos comme relativement essentialistes, d'autant plus que dans son analyse, elle rattache la femme à la maternité et dit qu'en chaque femme, il y a une mère, même si dans quelques passages de ses écrits, elle parle de la construction culturelle.
Hélène Cixous, elle est connue pour être une féministe essentialiste, hein, je crois.
Ouais, je pense. Mais en même temps, elle, dans plusieurs passages, a priori, de ses bouquins et de ses essais, elle dit quand même, elle reprend quand même cette notion de genre, en fait, et de construction sociale. Ce qui est intéressant dans les propos de Cixous, c'est qu'elle tente de valoriser ce qui est habituellement dévalorisé dans l'écriture des femmes, et ce qui est donc souvent misogyne. Alors que des critiques littéraires, avec leur misogynie, critiquent ce qu'ils considèrent comme les aspects d'une écriture féminine et disent de cette littérature qu'elle n'est pas aboutie, Hélène Cixous choisit de la renforcer et de la valoriser. L'utilisation du terme « écriture féminine » est liée à la marginalité des femmes qui écrivent et de leur rareté. Il y a donc eu une tendance à réunir cette littérature sous le nom d'écriture féminine et des études vise à trouver des liens de parenté entre ses écrits. Pourtant, ce qui est appelé écriture féminine est très hétérogène, et des ressemblances qu'on peut y trouver peuvent être largement rattachées à la culture et aux constructions sociales de genre. En tout cas, d'un point de vue historique, on remarque un certain nombre de faits sociaux récurrents chez les femmes auteurs. Elles ont souvent vécu en marge du système familial, elles sont veuves, femmes sans enfants, célibataires, lesbiennes ou religieuses. Elles ont souvent recours à un pseudonyme masculin pour se faire éditer. Elles ont souvent écrit très jeune ou très tardivement. Il s'agit souvent d'une écriture cachée, occultée, liée à un complexe de culpabilité, et ceci souvent à cause de l'hostilité de la société. Au sein des sujets, on retrouve aussi des thèmes récurrents, l'intimité et l'intimisme, les questions d'identité, l'enfance, et surtout le genre du jeu, autobiographique. Au niveau de la manière d'écrire le corps, l'auteur de l'article a écrit « Si le corps féminin apparaît dans la littérature masculine comme un corps morcelé, lié bien sûr à son statut d'objet érotique, l'écriture féminine explore à la fois le corps comme une unité et le désir de la femme tel qu'il se révèle dans les formes peu admises. » L'auto-érotisme, l'homosexualité, l'inceste et la jouissance. L'idée d'écriture féminine n'est pas du tout partagée avec Monique Wittig. Elle critique ce terme, le considérant comme naturalisant et grossissant la notion de féminité. Elle dit aussi que ce terme assoit la domination masculine. Elle a écrit « Ainsi donc, écriture féminine revient à dire que les femmes n'appartiennent pas à l'histoire et que l'écriture n'est pas une production matérielle. » Monique Wittig souligne que l'écriture française est une écriture masculine en soi, puisque le masculin l'emporte par exemple dans les accords, tout ça. Ainsi, le masculin est le genre général et le féminin le genre spécifique. Il est donc impossible d'universaliser et de ne pas particulariser, tout en utilisant les pronoms féminins. C'est ainsi que elle a écrit un roman en 1964 qui s'appelle « Opoponax » et qui utilise majoritairement le pronom « on » qui désigne un groupe de petites filles. Dans le même axe critique, Christine Planté a écrit « Pourquoi ce qu'une femme veut dire relèverait-il nécessairement de la féminité? Pourquoi, quand une femme écrit, aurait-elle avant tout, uniquement et toujours cela à dire? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la féminité ? Ça pose donc la question de ce qui définit ce qu'est la féminité. Or, la féminité est définie par le masculin, qui est l'universel, la normalité. C'est le masculin et donc aussi la misogynie qui va définir la féminité.
Tu peux répéter le dernier paragraphe ?
Oh là là, j'ai qu'à le raconter plutôt que le lire. Mais en fait, c'est du coup, elle se pose la question de ce qu'est la féminité. Mm. Et du coup, la féminité, elle existe comme altérité à la masculinité, qui est le normal, en fait, qui est la normalité.
L'universel.
Et c'est, du coup, c'est quelque chose d'autre que l'universel, que le masculin. Donc, c'est le masculin qui va dire ce que c'est que la féminité. Et comme le masculin est misogyne, eh ben, c'est assez réducteur sur ce que c'est que la féminité.
D'accord.
Et c'est aussi dans ce sens-là que Hélène Cixous, elle a voulu valoriser le féminin, en fait. C'est contre la misogynie.
D'accord. En parlant d'Hélène Cixous, à moins que tu avais encore à finir l'article, je sais pas.
Ouais, il reste 10 lignes.
Vas-y.
Finalement, même si ces études montrent des ressemblances entre des littératures de femmes, cette idée est dépassée. Notamment avec les critiques autour de la construction sociale de genre, mais aussi par la diversité littéraire, et puis par le fait que depuis les années 80, plus de femmes écrivent.
Alors en parlant d'Hélène Cixous, on va écouter une copine dont vous reconnaîtrez peut-être la voix, puisque c'est une dégenrée, qui va nous lire un extrait d'un texte écrit par Hélène Cixous.
Ouais, c'est un essai qui s'appelle « Le rire de la méduse », qui est paru dans un numéro de L'Arc et qui est consacré à Simone de Beauvoir.
Je parlerai de l'écriture féminine, de ce qu'elle fera. Il faut que les femmes s'écrivent, que les femmes écrivent des femmes et fassent venir des femmes l'écriture qu'elles ont soignée aussi violemment qu'elles l'ont fait de leur corps. Pour les mêmes raisons, par la même loi, dans le même but mortel. Il faut que la femme se mette au texte comme au monde et l'histoire de son propre mouvement. Et pourquoi n'écris-tu pas ? Écris ! L'écriture est pour toi, tu es pour toi, ton corps est toi, prends-le. Je sais pourquoi tu n'as pas écrit. Et pourquoi je n'ai pas écrit avant l'âge de 27 ans ? Parce que l'écriture, c'est à la fois le trop haut, le trop grand pour toi. C'est réservé aux grands, c'est-à-dire aux grands hommes. C'est de la bêtise. D'ailleurs, tu as un peu écrit, mais en cachette. Et ce n'était pas bon, mais parce que c'était en cachette, et que tu te punissais d'écrire, que tu n'allais pas jusqu'au bout, ou qu'en écrivant irrésistiblement, comme nous nous masturbions en cachette, c'était non pas pour aller plus loin, mais pour atténuer un peu la tension, juste assez pour que le trop cesse de tourmenter. Et puis, dès qu'on a joui, on se dépêche de se culpabiliser pour se faire pardonner, ou d'oublier, d'enterrer. Jusqu'à la prochaine. Écris. Que nul ne te retienne. Que rien ne t'arrête. Ni homme, ni imbécile machine capitaliste dont les maisons d'édition sont les rusés et obséquieux relais des impératifs d'économie qui fonctionnent contre nous et sur notre dos. Que rien ne t'arrête. Ni homme, ni imbécile machine capitaliste, ni toi-même. Impossible de définir une pratique féminine de l'écriture. D'une impossibilité qui se maintiendra, car on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l'enfermer, la coder. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Mais elle exercera toujours le discours que régit le système phallocentrique. Elle a et aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnant la domination philosophique théorique. Elle ne se laissera penser que par les sujets casseuse des automatismes, les coureuses de bord, qu'aucune autorité ne subjugue jamais.
Bonsoir. Vous écoutez toujours Dégenré, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et nous allons écouter un morceau maintenant, puisque c'est notre émission sur la littérature, un morceau d'un groupe qui s'appelle Crusty Menstruation, qui est un groupe issu de la scène punk DIY, do it yourself, donc non commercial, du début des années 2000. Et dans ce morceau, Crusty Menstruation et la chanteuse notamment reprend un texte de Dorothy Allison, et c'est pour ça qu'on vous le passe. Alors le morceau est un peu long, mais moi je trouve que c'est un très beau texte de Dorothy Allison, qui est une auteure lesbienne nord-américaine, qui a écrit notamment Poe, et le texte qu'on va entendre est extrait de ce livre, qui est aussi un recueil de nouvelles. Elle a aussi écrit L'histoire de Bonne. Et d'autres romans, et c'est une auteure assez importante aussi pour moi, dans ma vie, et notamment parce qu'elle a beaucoup écrit sur l'écriture, justement aussi, et sur l'acte d'écrire, aussi comme acte politique.
Et elle organise des ateliers d'écriture, notamment pour les femmes, et elle théorise beaucoup dans Poe sur cette pratique-là, en fait.
Voilà. Alors malheureusement, on ne peut pas vous lire des extraits de Poe ce soir puisque le livre a été emprunté à la bibliothèque. Mais enfin, au moins, on peut écouter ce morceau donc de Crusty Menstruation.
Boston, Massachusetts, il y a des années. Une femme m'a parlé d'une femme morte. Une femme qui n'était sans doute pas connue comme étant lesbienne. Personne n'est sûr qu'il le savait. Les filles n'ont pas dit ça, elles ont dit. Elle portait une veste en cuir, un jean, des boots usées, avait des cheveux foncés, coupés en brosse, était nouvelle dans le quartier. Et vivait dans une vieille maison alignée en briques avec trois autres femmes. Dit, elle portait un bidon d'essence. Ils n'ont pas dit pourquoi. Une voiture qui attend. Les sons discordants d'une escarmouche qui va mal finir. Dit, elle était blanche. Ses amies étaient blanches. Le quartier était dur. Elle et ses amies étaient des folles. N'étaient pas de là. Étaient des homos de toute façon. Dit, la bande brutale de jeunes hommes riait beaucoup quand ils l'ont stoppée. Elle a ri en retour. Et là,
toujours à l'écoute de Dégenré, Radio Kaléidoscope 97 FM, une émission spéciale littérature. Et donc, comme tu le disais à l'instant,
on a parlé plusieurs fois de la bibliothèque pendant cette émission.
Mais la bibliothèque, il y en a plein des bibliothèques. Il y a la bibliothèque municipale, il y a la bibliothèque...
Mais à Grenoble, une bibliothèque féministe, il n'y en a qu'une seule.
Et oui, alors c'est vrai qu'on en a déjà fait un peu la pub plusieurs fois. Donc c'est une bibliothèque féministe autogérée.
Elle existe depuis combien de temps ?
Depuis des années, on va pas raconter toute l'histoire de cette bibliothèque. Toujours est-il que depuis quelques mois, elle est à la BAF.
Et la BAF, c'est un centre social autogéré situé 2 rue des Alpins.
À Grenoble. Et donc, centre social autogéré, ça veut dire que c'est vraiment un lieu où chacun, chacune peut s'investir à la hauteur de ses moyens, faire ce que les projets qu'il ou elle a envie de défendre dans la vie, suivant, bon, évidemment, on a des accords politiques entre nous, quoi. Je sais pas comment dire.
Comme c'est des activités non lucratives, qu'il n'y a personne qui est employé, que c'est dans des pratiques autogestionnaires qu'on fait nous-mêmes, et puis aussi sans hiérarchie.
Et, oui. Et en lutte contre les discriminations.
Et les oppressions.
Alors ça, forcément, ça nous a plu. Alors, on a installé la bibliothèque féministe là-bas. Les permanences, c'est tous les lundis de 16h à 20h. La première permanence de chaque mois est mixte. Elle est ouverte à tout le monde. Et les trois d'après sont réservées aux femmes, aux gouines, aux trans.
Voilà.
Voilà. Parce qu'on aime bien la non-mixité, vous l'avez sûrement déjà compris. Et donc, c'est permanent, 16h à 20h tous les lundis, pour emprunter des livres. Rendre les livres qu'on a empruntés. D'ailleurs, le livre de Pau dont on a entendu un extrait, on aimerait bien le revoir.
Et puis aussi, une semaine sur deux, quasiment, le lundi, il y a une écoute collective de l'émission féministe dégenrée.
Votre émission préférée.
Que vous pouvez venir écouter à plein à la bibliothèque. Et du coup, c'est l'occasion de regarder les bouquins. Souvent, on imprime des brochures en lien avec le sujet, tout ça. Et puis, de discuter aussi après l'émission.
Et ouais. Bon alors, en parlant des bouquins de la bibliothèque féministe, t'es passé juste avant l'émission là-bas justement, et puis t'as pioché tes livres préférés.
Voilà, enfin préférés ou pas, en tout cas des livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Et alors, le premier que je voulais vous présenter est Christiane Rochefort. Et moi j'ai vraiment adoré cet auteur, je l'ai lu quand j'étais ado. Et elle a écrit un de mes livres préférés de elle, je pense c'est Encore heureux qu'on va vers l'été. Je pense que j'ai été séduite par le titre, habitant dans un pays bien gris. Et puis, encore heureux qu'on va vers l'été, c'est des enfants qui s'enfuient de leur école et puis qui vivent en autarcie, sans adultes, et puis qui voyagent vers l'été. Et qui subissent aussi la répression des adultes qui veulent les récupérer, les remettre dans l'école, mais ils apprennent plein de choses eux-mêmes, tout ça. Et puis là, le bouquin que j'ai, c'est Un printemps au parking, et c'est un peu la même thématique, c'est un ado qui se barre de sa famille après s'être engueulé avec son père, et puis c'est assez critique de la société, et puis il s'en va et il voyage beaucoup, tout ça.
C'est contemporain comme bouquin ?
Eh ben, je ne sais pas, je pense que ça date plutôt des années 70, mais je pourrais regarder.
Alors, voilà. Christiane Rochefort, donc c'est une écrivaine qui écrit encore aujourd'hui
ou... Non, qui a écrit dans les années 60.
D'accord.
Voilà, 69, Un printemps au parking.
Ok. Et toi, tu trouves que c'est bien écrit ? Tu trouves que...
Eh ben, en tout cas, quand je l'ai lu quand j'étais jeune, je l'ai trouvé très bien écrit, un peu dans ce... Ben, où du coup, c'est un roman un peu d'aventure, il se passe plein de choses, on a envie de savoir la suite. Et bien, en même temps, ça brasse plein de questions autour de la notion de liberté individuelle, justement, d'autarcie. Enfin, c'est vraiment assez intéressant.
Mais là, c'est pas un livre féministe.
Non, mais moi, je le trouve émancipateur quand même. Dans ce truc-là, mais vraiment, il y a cette notion toujours de se barrer. Enfin, dans plein de... Elle a écrit aussi des livres féministes. Mais dans celui-ci-là, il y a vraiment cette notion de partir, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et elle en a écrit un féministe, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les Stances à Sophie. Et c'est une femme qui écrit et qui est avec son mari, qui est vraiment un méchant.
Un salaud.
Oui, vraiment. Et du coup, elle raconte son mariage avec lui, quoi. Et ça parle vachement de la condition de la femme mariée dans les années 60-70, quoi. Il est vraiment bien. Et c'est plus une écriture comme un journal, quoi. Elle écrit un peu tous les jours. Enfin, c'est un roman, mais c'est comme si c'était une femme qui avait écrit régulièrement, quoi. Et qui a aussi une super copine avec qui elle partage plein de choses, tout ça. Qui est la femme du meilleur ami de son mari, quoi, un truc comme ça. Mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien écrit. Voilà. Ensuite, j'ai pris un livre parce que j'avais envie d'en discuter avec toi à l'antenne.
Petite maline, tu m'as prise au piège.
Voilà, un livre de Annie Ernaux que tu m'as conseillé une fois à la bibliothèque, qui s'appelle « Les armoires vides », que j'ai pas aimé. Raconte-moi pourquoi t'aimes bien Annie Ernaux.
Alors Annie Ernaux, c'est donc aussi une auteure contemporaine, hein, qui écrit depuis les années 70, il me semble. Et elle a écrit une flopée de bouquins, elle écrit encore. Moi, j'aime moins ses livres plus récents. Les derniers là que j'ai lus, je les aime moins. Par contre, j'ai énormément aimé les livres qu'elle a écrits, ouais, en gros, dans les années 70. Hein. Et Les Armoires Vides, eh bien, on dirait bien que c'est son premier. En 77, il est paru. Et pourquoi j'aime bien... Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui accrochent pas du tout avec son écriture et d'autres qui aiment à fond. Et moi, j'aime beaucoup cette écriture-là. Alors, c'est vrai que, pour le coup, c'est peut-être un peu féminin. Je sais pas comment dire. C'est effectivement très introspectif, très... Il y a un truc... Mais je trouve ça assez beau, comment c'est écrit. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle parle beaucoup dans ses livres de la question des origines familiales et des origines sociales et de comment elle, en fait, elle est issue d'un milieu prolétaire en Normandie. Et elle est devenue professeure, donc elle a gravi les échelons en termes de classe sociale. Et elle raconte, et notamment dans ce bouquin Les Armoires Vides, elle raconte l'apprentissage de la honte. Comment, quand elle était gamine, elle kiffait sa famille, c'était génial. Sa mère, son père, c'était des gens qu'elle aimait beaucoup, qui étaient chouettes. Et en grandissant...
Oui, elle les mettait même beaucoup sur un piédestal. Voilà. Et en rentrant à l'école privée. Parce que du coup, ils l'inscrivent à l'école privée pour qu'elle puisse avoir une bonne condition sociale. Parce que quand même, ses parents n'étaient pas non plus des plus pauvres. Ils avaient une épicerie, du coup, ils étaient quand même commerçants.
Oui, bon, mais en tout cas, ça reste la classe sociale défavorisée.
Mais c'était très prolétaire, enfin, voilà. Très prolétaire quand même. Mais du coup, c'était un espèce d'entre-deux. Du coup, quand elle se retrouve dans l'école privée, elle est complètement en décalage avec les bourges, quoi.
Bah, elle découvre qu'en fait, elle vient de chez les pauvres. Et elle découvre la honte de cette classe-là, de ses parents.
Et je trouve qu'elle
décrit ça, et elle l'intègre. Et je trouve qu'elle décrit ça hyper précisément, et que moi, ça m'a à fond parlé, en fait, ce rapport à son histoire familiale et tout. Et voilà. Et elle parle aussi dans Les Armoires Vides. Et en fait, elle a écrit beaucoup de romans qui sont entre le roman et la fiction, parce qu'elle va s'inspirer de son enfance, c'est sa réalité, pour raconter des fois des trucs qui sont fictionnels. Il y a des romans qui sont fictionnels, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, La Femme Gelée, c'est un autre livre qu'elle a écrit que j'ai beaucoup aimé, qui est une fiction, mais où on retrouve un peu ces éléments-là, pareil, de cette petite fille qui grandit avec des parents épiciers, là, là, là. Dans Les Armoires Vides, elle parle également de l'avortement qu'elle a vécu avant la loi Veil, donc un avortement dans l'illégalité, par une faiseuse d'ange, comme on dit. Et elle raconte aussi la honte qu'il y avait avec ça, la culpabilité. Et j'ai trouvé que c'était des mots hyper justes aussi sur des réalités que j'ai pas envie qu'on oublie, de beaucoup de femmes qui ont vécu leur sexualité avant la légalisation de l'avortement en France. Mais pourquoi t'as pas aimé ? C'est génial, non ?
Ben, moi, le fond et le sujet du livre, je les ai trouvés vraiment très intéressants. Et puis hyper, qui nourrissent plein de réflexions, tout ça, et qui me parlaient sur plein de choses. Mais c'est la manière d'écrire, j'ai trouvé ça redondant et répétitif, ennuyeux.
Oh là là.
Mais en plus, c'est hyper subjectif comme ça, je saurais même pas expliquer. Enfin, je peux pas faire une analyse littéraire, je suis nulle en littérature. Mais juste, je sais pas, j'arrivais pas à...
T'as pas accroché, quoi.
Ouais, j'ai pas été plongée dedans comme je suis plongée dans notre roman, quoi.
Alors que c'est vrai que moi, bah, ça marche à fond, quoi. Moi, Les Armoires Vides et La Femme Gelée, c'est vraiment deux romans qui m'ont touchée énormément. Bon, alors voilà, Annie Ernaux, à voir ce que vous en penserez si vous avez envie de vous plonger dedans. Alors, on parlait des femmes dans la littérature, mais les lesbiennes dans la littérature. Alors, en tant qu'auteur et en tant que personnage des romans, est-ce que c'est pas un petit peu minoritaire tout ça ?
Ben oui, on connaît Colette, mais encore Colette, c'est controversé, quoi. Il y a un peu des histoires qu'elle écrivait ça sur la demande de son mari. Enfin, elle était mariée, Colette.
Ouais. George Sand, elle n'était pas un peu bisexuelle autrefois ?
Si, et puis Simone de Beauvoir, dans l'article là que je résumais tout à l'heure, elle est classée dans les bisexuels aussi.
Mais oui, mais bien sûr.
Ah bah moi, j'étais pas au courant.
Oui, bah c'est les ragots des écrivaines, hein, il faut suivre. Bon, plus contemporain. Heureusement, aujourd'hui, il y a un peu plus de romans lesbiens qui sont publiés. Il y a des maisons d'édition spécifiques. Mmh. Alors, bon, qui publie des romans de plus ou moins bonne qualité, hein, parfois c'est quand même assez nul, d'après moi. Hein, mais parfois, il y a vraiment des auteurs qui percent.
Et en même temps, c'est un truc hallucinant. Comme, enfin, moi, j'imagine peu, je sais pas, v'là 40 ans, quoi, un roman lesbien, enfin, ça aurait fait...
Mais moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des maisons d'édition spécialisées en roman gay, en roman lesbien. Je trouve que c'est vraiment de la même façon que les éditions des femmes, ça a été hyper important. Après, je suis contente, des fois, c'est l'auteur dont on va parler après, qu'il y ait des auteurs lesbiennes qui publient dans des maisons d'édition généralistes des romans de grande qualité. Et des fois, il y en a aussi qui sont publiés dans les maisons d'édition gays et lesbiennes, mais enfin, il y en a aussi tout un tas que je trouve pas très intéressant, j'avoue. Moi, il y a tout un tas de romans lesbiens. Bon, bah, à part qu'on est contente qu'ils nous racontent des histoires d'amour entre femmes, au bout de 3-4, t'as compris, quoi.
Bah, ou disons, ça peut être aussi intéressant de développer d'autres imaginaires autour de l'amour, autour des relations.
Oui, et puis, je trouve qu'ils sont pas de très bonne qualité d'écriture.
Ouais. Mais alors,
allez, je balancerai pas de nom. Hein.
Moi, ce que je. Moi, quand je revenais sur les. Quand je disais 40 ans et tout, c'est quand on parlait des discriminations des femmes dans l'édition. Enfin, c'est assez imaginable. Enfin, au niveau de la discrimination des lesbiennes, en fait, où déjà. Tout autour de ce tabou, autour de la sexualité et tout. Et puis, en fait, l'homophobie général, en fait, qui existe encore maintenant, mais qui maintenant est toléré comme un truc de diversité, je sais pas quoi, mais où du coup ça a aussi réduit beaucoup l'écriture, même si ça existait.
Et pour autant, mais pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, un exemple ne fait pas une règle générale, mais c'est quand même intéressant. Je pensais à ça tout à l'heure aussi. Comment j'ai l'impression que dès qu'on va dans des côtés un peu pointus dans les domaines artistiques, on va trouver de moins en moins de femmes, quoi. Tu vois, entre la peinture réaliste et la peinture contemporaine ultra pointue, là, j'en sais rien, ou dans les lieux d'artistes, par exemple, on va voir qu'on voit pas, on retrouve pas beaucoup de femmes, même à Grenoble, hein, dans les lieux d'artistes qu'on connaît. Mais là aussi, quand même, dans l'exemple qui contredirait la règle générale, je pensais à Monique Wittig, dont tu parlais tout à l'heure, donc auteure lesbienne revendiquée, militante et tout.
Et aussi essayiste.
Elle est reconnue dans les milieux pointus littéraires. Ces livres de poésie, par exemple, sont reconnus dans les milieux littéraires. Mais c'est très pointu, hein. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à le lire, quoi. J'avoue que je trouve pas ça passionnant.
Et tu connais d'autres poétesses?
Voilà, mais moi, en poésie, je suis nulle. Non, moi, je voulais parler d'une romancière. Moi, je reste cantonnée à mon domaine bien féminin. Alors, si vous voulez lire des histoires qui vous emportent, qui vous font pleurer et qui vous font vibrer...
Il existe une auteure lesbienne formidable.
Même toi, tu l'aimes bien.
Ah, mais moi, j'adore Sarah Waters.
Sarah Waters. Ah, même la technicienne est d'accord avec nous. Alors, Sarah Waters, ce qui est génial, c'est qu'elle écrit très bien et qu'elle écrit des grands romans qui vont s'inscrire dans un moment historique, par exemple la Deuxième Guerre mondiale ou l'ère victorienne. Et ça va être un peu des espèces de sagas comme ça, de grandes fresques. Et on va suivre un ou deux personnages dans tout ça. Et je trouve
souvent
que c'est...
des femmes, donc avec des histoires amoureuses lesbiennes.
Voilà. Alors ça ouvre plein d'imaginaires. Et moi, mon préféré, c'est Caresser le velours.
Oui, moi aussi. Mais là, on l'a pas parce qu'il est aussi emprunté, parce que tous les meilleurs livres de la bibliothèque sont empruntés.
Et il y en a même certaines, elles refusent de les rendre, comme celui-là d'ailleurs. Hein, qui doit être à côté d'un lit et qui n'en bouge pas.
Et alors là, on a du bout des doigts, mais ce qui est bien, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec Sarah Waters, c'est que ça s'ancre effectivement dans des moments historiques, mais il y a des recherches assez poussées de ces moments-là, et souvent elle s'appuie sur des documents qui ont vraiment existé. Et comme Ronde de nuit, elle s'est appuyée sur des lettres qu'elle a lues qui ont existé vraiment. Et moi ça, j'ai trouvé ça formidable, parce que ça fait des descriptions... On s'y croirait, quoi.
Et alors, Caresser le velours, je l'ai lu il y a longtemps, mais vraiment, j'ai l'impression que ça balaye quand même quasiment 50 ans, donc de la vie d'une femme, quand elle est jeune et qu'elle quitte sa famille, là, et qu'elle découvre Londres, et qu'elle va tomber amoureuse, et tout ça, et puis il va lui arriver des tonnes de trucs complètement fous, et ça nous emporte vraiment. Et c'est vrai que moi, c'est le premier que j'ai lu, hein, et je me suis dit, oh, enfin, un roman... à la fois vraiment super bien écrit, qui effectivement a tout un tas d'autres intérêts que le fait que ce soit une histoire, qu'il y ait des histoires lesbiennes dedans, mais qui est lesbien et qui est pas cucu. Et ça aussi c'était super, c'était pas cucu. Non mais c'est vrai, il y a du cul, mais c'est pas cucu.
Non, mais et puis c'est aussi que la manière dont c'est écrit, c'est un peu avec des retournements. Enfin, vous voyez, c'est cette manière d'écrire là où il y a toute une histoire qui commence à se développer, et puis d'un moment, pouf, il y a un retournement, on reprend du début, puis finalement tout est différent. Ou un peu ça plonge comme ça dans des. Oui, c'est un peu polar, quoi, un peu d'une certaine manière. On sait pas trop ce qui va se passer, quoi.
Il y a du suspense.
Voilà.
Alors, on peut peut-être dire les différents bouquins que Sarah Waters, elle a écrit. Elle a écrit Caresser le velours, Du bout des doigts, que moi j'ai trouvé vachement moins bien. Je l'ai trouvé tiré par les cheveux.
Ah oui, mais moi je l'ai trouvé vraiment bien par rapport à Affinité, par exemple.
Ah oui, pire. Bon, ouais. Voilà, c'est très inégal, hein. Faites-vous votre opinion.
Ronde de nuit, elle intègre tout un truc un peu magique et un peu surréaliste, là, complètement incroyable. Mais qui est vraiment rigolo. Enfin, vraiment agréable à lire.
Bon, grosso modo, on vous la conseille. Voilà, tous ces livres nous ont pas plu de la même manière, mais c'est plutôt une auteure qui nous a fait plaisir et qui nous a fait du bien.
Par contre, parce que ces romans ont été une grande réussite, des gens ont voulu en faire des films.
Et ça a été une catastrophe.
Oui,
ne regardez pas Caresser le velours, fait par la BBC. En même temps que c'est marrant, hein. Faut se dire que c'est comme si TF1 avait adapté Baise-moi de Virginie Despentes. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et c'est la BBC qui a adapté Caresser le velours, une espèce d'histoire lesbienne. Mais alors du coup, c'est vrai que les représentations sont bien loin des nôtres. Hein.
Et puis,
allez. Il y avait un dernier truc que tu voulais présenter.
Moi, je vais présenter Mouvement de presse, des années 70 à nos jours, les luttes féministes et lesbiennes. Et alors, avant de faire cette émission, je l'ai beaucoup feuilleté et lu. C'est un livre qui est hyper beau, qui présente plein de journaux, de brochures, tout ça, qui ont été écrits par des féministes et des féministes lesbiennes des années 70 jusque, je crois, c'est 2007 quand il est publié. Et alors, il y a des images des différentes revues, leurs éditos, des interviews. Et c'est hyper bien. Je me suis dit, il va sûrement y avoir des trucs sur l'écriture et tout ça, mais c'était trop dispersé pour pouvoir vous en lire des extraits. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Ça retrace plein de choses. Et puis, ça montre aussi les divergences dans les mouvements, comment il y a eu des fractures, comment des revues, elles se sont arrêtées et pourquoi, et comment elles ont recommencé en deux revues différentes ou trois revues différentes. Et puis, il est vraiment super, quoi. Et c'est vraiment autour de l'auto-édition. Et d'ailleurs, il y a un morceau que moi, j'ai trouvé hyper intéressant d'une revue qui a été faite par des journalistes, des femmes journalistes qui disaient « On va faire notre revue féministe nous-mêmes parce qu'en fait, à chaque fois qu'on écrit un article pour un journal normal, on nous dit qu'on prend pas assez de distance avec le féminisme, blablabla. Et en fait, on n'a qu'à faire notre journal nous-mêmes parce qu'en fait, là, on pourra vraiment s'exprimer avec nos opinions. »
C'était quoi comme journal ?
Bah, je sais plus. Peut-être c'était Des Femmes, je crois.
D'accord. Donc ça s'appelle Mouvement de presse et c'est aux éditions ARCL.
Voilà.
Alors on va écouter un petit morceau de musique et se retrouver pour la fin. Peut-être d'ici là, tu auras su de quel journal exactement il s'agissait. On va écouter The Third Sex and Card Carrying. 1, 2, 3, 4.
Bonsoir. C'est l'heure de l'agenda de Déjanré.
Alors, l'agenda de Déjanré vous conseille cette semaine.
Alors, la marche de nuit à Lyon, le 26 novembre.
Samedi même, là.
Samedi bientôt.
Ouais.
Alors, c'est une marche de nuit pour...
Non mixte.
Non mixte, entre femmes, lesbiennes et trans. Et c'est à...
C'est à 19h au métro Guillotière. Rendez-vous place du pont, métro Guillotière, pour faire ensemble une petite balade à plein dans les rues de Lyon la nuit pour se réapproprier donc la rue, la nuit, pour lutter contre la peur, contre le fait qu'on se sente pas à l'aise et l'espace comme s'il était à nous dans la rue, dans la ville. Donc c'est pour se réapproprier ça.
À Grenoble, vendredi 25 novembre, du coup vendredi bientôt, un film
qui s'appelle Towelhead,
qui est l'histoire d'une jeune fille qui un peu subit la présence de son corps et un peu craque à cause des violences qu'elle subit avec ce corps. En gros, je saurais pas bien vous... j'ai lu juste le descriptif et je saurais pas bien vous raconter plus précisément, ça a l'air vraiment pas mal et ça sera à la BAF,
dont nous avons déjà parlé puisque c'est le même lieu qui accueille la bibliothèque féministe.
Donc deux rues des Alpins, pas loin de, du croisement entre rue des Alliés et rue Stalingrad.
Et donc c'est à prix libre ou c'est gratuit même.
Non, c'est gratuit.
C'est gratuit carrément, c'est super. Donc c'est vendredi 25 à 20h.
Voilà.
À la BAF. Et enfin, troisième événement, toujours à la BAF. Décidément, ce lieu nous inspire beaucoup. C'est mercredi 30 novembre, donc dans une semaine, un concert organisé par Dali Dark. Dali Dark, c'est un collectif de meufs qui organise un peu comme ça des concerts, mais qui plus généralement ont un peu l'ambition de mettre plus en avant les cultures de meufs, de gwyn, de trans, les cultures féministes dans la scène DIY, justement cette scène un peu non commerciale, do it yourself, notamment la scène punk, mais plus largement aussi. Et donc là, en l'occurrence, c'est un concert de Sophistique qui fait de la chanson énervée, humoristique, c'est super drôle, et un spectacle de marionnettes, voilà. Donc c'est à partir de 18h puisque c'est un apéro-spectacle. Donc venez à 18h hein, parce que le spectacle commencera peut-être bien vers 18h30 et puis ensuite il y aura des petits trucs à grignoter et puis le concert et puis voilà. Petite soirée sympathique, toujours de Chemin des Alpins à Grenoble, donc à la BAF.
Et puis on peut vous parler de du coup la semaine prochaine. Il y a les rencontres Radio Rageuse, qui est une rencontre de radio féministe, de femmes, de gwyn et de trans. Et du coup, c'est un réseau un peu qui regroupe différentes émissions de radio en France, dont Calibre et Déjanré font partie. Calibre, l'émission du jeudi soir de Libre Antenne sur Radio Kaleidoscope. Et qu'on vous conseille vivement.
Et là, puis... vous pouvez écouter la radio le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir.
Et dans ce cadre-là, il va y avoir une prise d'antenne avec les différentes émissions de radio qui se seront retrouvées pour le week-end sur Radio Canu. Du coup, c'est à Lyon, Radio Canu. On peut l'écouter 102.2 à Lyon, mais on peut aussi l'écouter par Internet. Et du coup, de 20h à minuit, il y aura une prise d'antenne par Radio Rageuse.
Quel jour déjà, t'as dit ?
Le vendredi soir.
Le vendredi 2 décembre.
2, pardon.
Alors, et pour les Lyonnaises qui nous écoutent, je pense que c'est complètement possible d'aller nous rendre visite à Radio Canu ce soir-là. Les locaux sont assez grands pour accueillir nos auditrices et ça nous fera bien plaisir de les rencontrer.
Et outre des rencontres et de se retrouver entre meufs, gwyn et trans qui faisons de la radio, on a aussi un site internet qui permet de télécharger plein d'émissions de radio.
Et oui, parce qu'il est fort probable que vous ne puissiez pas toujours écouter Déjanré en direct. Des fois, le mercredi soir, il y a autre chose qui se passe. Hein. Bon, bah, c'est normal. Mais c'est pas grave, vous pouvez quand même écouter nos émissions puisqu'elles se trouvent sur internet, sur ce site qu'on a créé justement avec les copines de Marseille, de Lyon, de Toulouse, là, de ce réseau-là, de Saint-Étienne, de Bruxelles, enfin, toutes les copines là qui font de la radio partout en France. On a monté ce site justement dans l'idée d'un outil commun sur lequel on puisse référencer toutes nos émissions de radio, les rechercher en fonction des thèmes et tout. radiorageuse.net et c'est là que vous trouverez toutes les émissions de Dégenrées.
Du coup, Radio Rageuse, c'est en un seul mot, radio au singulier, rageuse au pluriel. C'est très logique.
Mais c'est un jeu de mots et c'est magnifique. Puisque les féministes ont de l'humour, nous ne le dirons jamais assez.
Voilà, et ben on va vous laisser parce qu'il est l'heure, avec un dernier morceau.
Voilà, on vous souhaite une bonne soirée avec Lil Put Kleenex Turc.
Bonsoir.
Bonsoir. What a terrible vacuum is soothing in their brain. I hope for all of them they go to rock chat right. I think if I'm sorry scanting, come on, believe that city. What a terrible vacuum is shooting in their brain. I hope for all of them they go to rock chat right. I think if I'm sorry scanting, leave that city, and the only thing we can do is to go to our practice room. We try to forget the word school 3 times in a week. What a terrible vacuum is living in their brain. I hope for all of them they go to rock chat right. I think if I'm sorry scattering, if I'm sorry, he's counting. Come on, leave Stark City.